Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris et toujours disponible. Nous en sommes au chapitre 5, l'homme symbolique, et nous dressons le portrait justement de cet homme symbolique. Nous avons commencé la semaine dernière à analyser ses composantes. Nous avons vu que on pouvait symboliser les pulsions les plus régressives ou les plus dangereuses dans l'être humain, et en les mettant en scène, on désamorce justement le côté dangereux ou périlleux qu'elles présenteraient, ces pulsions, si on les mettait directement en œuvre dans la vie. Alors, danger de la désymbolisation. Que se passe-t-il si ces constructions qui ont une fonction de substitution, une fonction cathartique, une fonction de purgation, si ces constructions viennent à disparaître? Eh bien, il me semble que si on désymbolise, si on déritualise, alors, mettons l'agressivité. Cette agressivité, au lieu d'être mise en mots ou en spectacle, va être refoulée à l'intérieur de l'être lui-même. Et cette situation est loin d'être meilleure. En effet, on peut mourir de pulsions rentrées, si vous voulez. Fritz Zorn, dans un texte essentiel qui s'appelle « Mars », dit qu'il meurt de toutes les larmes qu'il a refoulées à l'intérieur de lui-même. Les parents rigoristes qu'il a eus, l'éducation conformiste qu'il a reçue, ont fait qu'il a tourné contre lui-même la pulsion d'agressivité qu'il n'a pu projeter à l'extérieur. Et alors, il a été atteint aux alentours de la trentaine d'un cancer généralisé. Eh bien, il dit que ce cancer qu'il a atteint, c'est l'auto-dévoration d'un être qui a été empêché de crier, de se battre, de mordre à l'extérieur, hein. Et alors, lorsque ce cancer s'est déclenché, il a transformé son vrai nom, qui était Angst, un nom qui veut dire peur, hein, en Zorn, qui veut dire colère. Et il écrit Mars, qui signifie le dieu de la guerre. Il se déclare en état d'insurrection. Mais hélas, c'est trop tard, et il mourra quelques mois plus tard de ce cancer, hein. Il n'a pas pu s'insurger assez tôt, et il va mourir d'une éducation, comme on dit, BCBG, c'est-à-dire bon chic, bon genre, qu'il a reçue, hein. Donc chez lui, on pratiquait le self-control, la restriction mentale, et finalement, tout cela empêche justement d'extérioriser des pulsions que l'on a en soi. Le savoir-vivre, vous savez, empêche très souvent de vivre, hein. Et le savoir-vivre fait mourir, hein. Je pense à la phrase connue de Henri Calais, qu'il a écrite quelques jours avant sa mort, « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes », vous voyez, hein. Alors, de la même façon que le suicide, par exemple, est une manière de tourner contre soi-même la pulsion d'agressivité, ordinairement dirigée contre autrui, de la même façon, une maladie comme le cancer peut fonctionner comme métaphore d'une frustration, d'une inhibition ou d'un blocage. William Reich disait que la meilleure défense contre le cancer était l'orgasme ou la perte du contrôle de soi. Et toute la psychosomatique le montre. Les conflits intérieurs s'expriment dans le corps. Il suffit de lire à cet égard le livre de Georges Grodek qui s'appelle « Le livre du ça ». Je suis frappé, personnellement, comme professeur de littérature, de voir que, à la fin de beaucoup de romans, un personnage essentiel, quand il a subi une grande épreuve, meurt en quelques jours, hein, en quelques jours. Par exemple, à la fin du Rouge et le Noir de Stendhal, nous avons la phrase suivante, « Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse de ne pas attenter à sa vie, mais 3 jours après Julien Sorel, elle mourut en embrassant ses enfants, vous voyez. Donc comment se fait-il qu'elle meure si vite, hein? Sinon, par une espèce de raccourci qui nous renvoie aux maladies causées dans le corps par l'âme elle-même, par les chagrins que supporte l'âme, vous voyez. Pareillement, dans le roman de Boris Vian, L'écume des jours, hein, eh bien, on voit que l'héroïne, qui s'appelle Chloé, meurt d'un nénuphar dans son poumon. Alors, c'est une métaphore d'une maladie grave, peut-être la tuberculose, je ne sais pas, hein. Et, à mon avis, Chloé a voulu se rendre malade exprès pour attirer l'attention et les caresses de Colin, qui s'est éloigné d'elle aussitôt qu'il a été son mari. Sitôt que l'on épouse quelqu'un, commence le refroidissement, l'entropie, etc. Hein, et la chute du désir, l'élan tombe, si vous voulez, l'élan initial. Alors, Chloé se rend malade pour que Colin puisse de nouveau la réchauffer de ses caresses. Mais son calcul est déjoué, puisque Colin tire de l'argument qu'elle est malade, une raison justement pour ne pas la couvrir de ses caresses, hein. Tu dois te ménager, etc. Alors vous voyez que la logique de la maladie, comme celle de Chloé, par rapport à la vie, n'est pas toujours une opposition. La maladie, c'est pas forcément ce qui contredit la vie, mais la maladie, c'est quelque chose qui veut dire une demande. C'est pas toujours un malgré qu'il faut lire, mais parfois un pour ou un parce que, vous voyez. On veut parfois être malade pour signifier quelque chose par cela, hein. Il y a des instincts ou des pulsions de mort, et pourquoi en serait-il autrement du cancer que chacun porte en soi? On sait comment il se déclenche, mais qui sait pourquoi, hein? Donc, quand l'homme ne peut plus parler, le corps parle à sa place. Alors, on pourrait faire un peu son Jacques Lacan et dire « maladie, mal à dire », vous voyez, en faisant un jeu de mots, hein. Et d'ailleurs, les médecins disent bien que le corps parle ou s'exprime ou répond à une thérapeutique. Il y a donc un langage du corps, et ce langage est très instructif. Je prends un exemple. Prenez un scorpion qui serait entouré de flammes, sans espoir de s'échapper. Il essaie de s'échapper, il ne peut pas, parce que les flammes l'en empêchent. Alors le scorpion va retourner son dard contre lui-même et va se tuer, vous voyez. Alors, autre exemple, mais analogue, hein, on constate qu'il y a plus de filles anorexiques que de garçons. Je pense que c'est parce qu'étant des filles et étant élevées comme telles, comme des filles, dans la réserve, hein, eh bien, elles ne peuvent extérioriser leur agressivité comme le peuvent les garçons. Alors, elles retournent leur agressivité contre elles-mêmes, exactement comme le scorpion se suicide en retournant son dard contre lui-même. Donc, il faudrait faire toute la psychosémantique de l'anorexie, hein. Je pense que l'anorexique fille, par exemple, ne mange pas, non pas pour être mince ou svelte comme les top modèles qu'elle voit dans la presse ou à la télévision, mais au contraire par un refus total justement du monde ambiant, vous voyez, hein. Il y a là un langage, une interrogation et un refus qu'il faut savoir examiner, hein. Refus par exemple parfois de devenir comme la mère qui apparaît comme une mère pondeuse, etc. Vous voyez, hein. Alors, voyez par exemple le récit, hein, de Patrick Poivre d'Arvor, Elle n'était pas d'ici, sur la mort de sa fille anorexique, mais déjà petite, le livre Petite de Geneviève Brisac, vous voyez, hein. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de la tauromachie. Et j'espère que vous avez, vous n'avez pas été choqué par ce que j'ai dit. Mais je dirais que celui qui assiste à une corrida sur les arènes, à ce rituel hautement symbolisé de la violence et de la mort, celui même qui crie sur les gradins de l'arène en se fondant dans le corps mystique de la foule, hein, je prends cette expression corps mystique à ce que l'on dit en Inde, hein, eh bien celui-là expulse hors de lui la violence qu'il a en lui, en se dépossédant de son individualité. Alors peut-être, je dis bien peut-être, je souligne mon peut-être, peut-être cet homme-là a moins de risques de développer un cancer que l'individu solitaire et civilisé occidental, c'est-à-dire l'individu hautement inhibé, hein, inhibé. Rimbaud nous dit à propos de l'homme de la fin du XIXe siècle, « Ce peuple est dévoré par la fièvre et le cancer. » C'est dans une saison un enfer. Hein. Donc la fièvre, il s'agit de la fièvre de, comment dire, de production, hein, du travail, etc. Et le cancer, c'est l'inhibition. Hein. Et de la même façon, Fritz Zorn, dont je vous ai parlé en commençant cette émission, il était suisse. Alors voilà. Alors là, écoutez, de nouveau, j'espère que je ne vais choquer personne. Hein. Mais qu'est-ce qui caractérise les Suisses? La manie de la propreté, la manie de l'ordre, la répression constante de soi. Hein. Eh bien, tout cela peut induire des névroses collectives et des paralysies. Hein. Et l'expression est l'art qui a une fonction cathartique, une fonction d'expulsion des pulsions, précisément, ne gagne rien, justement, à ce type de comportement. Alors, la Suisse n'a pas de criminalité, d'accord, ou très peu, hein. Bon, d'accord. Et l'Italie de la Renaissance avait beaucoup de criminalité, beaucoup d'insécurité. On ne pouvait pas se promener dans les rues sans courir le risque d'être agressé, hein. Mais alors, qu'est-ce que cela a donné du point de vue de la civilisation? La Suisse a donné au monde quoi? Le chocolat et la pendulette, la pendule qui fait coucou, hein. Tandis que l'Italie de la Renaissance, où il y avait beaucoup d'insécurité, a donné l'art du Quattrocento, hein, c'est-à-dire bon Botticelli, Vinci, etc. Vous voyez, hein. Alors cette comparaison est faite par Orson Welles dans le film de Carol Reed, Le Troisième Homme. Et il semble justement que cette phrase, ça soit Welles lui-même qui l'ait suggérée au réalisateur. Alors s'agissant de la Suisse, les statistiques sur les suicides, sur les maladies de déficience immunitaire dirait peut-être des choses importantes, comme sur tous les pays où l'autorépression morale est grande et la magie des constructions symboliques est faible, vous voyez. Alors, je pense à ce que disait Godard, hein, le drapeau suisse. Qu'est-ce que c'est que le drapeau suisse? Godard disait « le sang des autres et une croix dessus », vous voyez. Alors, Godard, un Suisse, hein, voilà. Hein, donc, d'où cette espèce de ce peuple égocentré, hein, qui ne s'occupe pas de l'extérieur, eh bien, et qui vit dans la morosité. Hein. Toute la littérature suisse, bon, pas seulement Zorn, Mars de Frisorn, hein, toute la littérature suisse qui compte est oppositionnelle et critique vis-à-vis de la société suisse, hein, comme si la prospérité ne suffisait jamais pour assurer la santé de l'âme. Hein. Un article du Monde, naguère, avait titré « Asthénie au pays des Helvètes » à cause de, justement, Astérix au pays des Helvètes. Asthénie, c'est-à-dire faiblesse, manque d'élan, manque de tonus psychique. Et Patricia Highsmith, hein, qui vivait en Suisse, faisait les mêmes remarques sur ce pays. Je cite, elle disait « pays propre, ordonné, et où les habitants débordaient de sang civique, terriblement rigoriste en fait, hein, à cause de l'éthique protestante. Hein. Autrement, pourquoi cette Suisse, au premier coup d'œil si avenante, aurait-elle le taux le plus élevé de toxicomanie par habitant au monde, vous voyez? Forcément, parce qu'elle est trop rigoriste, hein. Donc il faut réfléchir à cela. Alors j'espère ne choquer personne, surtout pas des auditeurs suisses, hein. J'ai fait des citations. Je ne prends pas la totale responsabilité de ce que je dis, puisque parfois je m'abrite, hein, derrière ce que disent les autres, comme on dit en latin, laruatus pro deo, c'est-à-dire je m'avance caché. Thank you. Voilà, alors là encore, je vais me faire peut-être des ennemis après avoir critiqué, entre guillemets, les Suisses, je vais critiquer les Belges. Hein. Alors, ce côté, si vous voulez, replié sur soi, est le propre des petits pays égocentrés et petits bourgeois pusillanimes. Par exemple, pour Baudelaire, hein, dans la partie de son œuvre qui s'appelle Amenitates Belgicae, c'est-à-dire des choses agréables sur la Belgique, et c'est une antiphrase, bien sûr, il faut comprendre le contraire. Pour Baudelaire, la Belgique incarnait ce qu'il ne voulait pas que la France devint un jour, hein, mais qu'elle est peut-être devenue depuis, hélas, vu la situation politique actuelle, qu'elle risque de devenir. C'est-à-dire un pays mesquin, strictement matérialiste, fait replié sur lui-même, pas ouvert au vent du large, si vous voulez, qui est fait seulement d'hommes à l'âme dure, comme le dit Mallarmé dans son poème Les Fenêtres. Hein. Il y a un tableau de Bruegel que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paysage avec chute d'Icare. Eh bien, si vous voyez ce tableau, au premier plan, il y a un laboureur qui suit obstinément son sillon, tête baissée, sans s'occuper le moins du monde, d'Icare qui est en train de se noyer non loin de lui. Hein. Alors, il pourrait dire, ce laboureur, comment dire en latin, pereat mundus dum ego salus sim, que le monde périsse pourvu que moi-même je sois en sécurité, vous voyez. Est-ce qu'il y a là une allégorie du peuple belge? Je n'en sais rien, mais disons que cela fait réfléchir. Hein. Et à trop être angélique et dégagé ou délivré du mal, on peut aussi sombrer. Hein. Alors, c'est ce qui est arrivé aussi à ce héros d'origine belge qui s'appelle Tintin, ou plutôt à son créateur, le belge Hergé. Tintin, regardez comment il est. Il est lisse, sans défaut. On ne lui connaît pas d'emportement, il ne se met jamais en colère, on ne lui connaît pas de petit ami, etc. Donc je dirais que Tintin est d'une irréalité terrifiante. Hein. Mais enfin, dans Tintin, il y a d'abord un racisme ordinaire qui est visible dans certains albums, hein, à propos de l'Afrique noire. Hein. Et puis aussi, il faut penser à la jeunesse d'Hergé qui fut marquée par une appartenance à l'extrême droite belge, hein, comme le rappelle Pierre Assouline dans sa biographie sur Tintin. Alors, je me demande s'il n'y a pas un lien entre la figure soft ou clean de Tintin, hein, et l'ombre ou les ombres de son dessinateur. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le boy scout de la créature et le fascisme de son créateur, hein? Il y aurait donc là les dangers de la ligne claire, ce que j'appelle la ligne claire. Alors la ligne claire dans la bande dessinée, c'est une façon de dessiner avec des aplats simplement et sans sous-mate, sans estompage des ombres. Hein. Alors le psychiatre Serge Tisseron, dans son livre « Tintin sur le divan », voit dans Tintin l'image de la Trinité. D'abord le capitaine Haddock, qui est alcoolique et emporté, figurerait Dieu le Père. Mais notez que cette image d'un Dieu colérique et emporté est très désobligeante pour un juif, par exemple. Hein. Tintin, qui est doux, hein, incarnerait le fils, et Milou, le chien, incarnerait le conseilleur, le Saint-Esprit ou le Paraclet. Paraclet vient de Paraclitos, qui veut dire avocat. Hein. Bon, mais de toute façon, un homme comme Jacques Brel, dans sa chanson Les Flamandes, quand il dit Les Flamandes, ce n'est pas frémissant, eh bien, on ne peut pas l'accuser justement d'être anti-belge, puisqu'il est lui-même belge. Hein, mais il reconnaît justement cette placidité et cette absence d'âme dans certains esprits originaires de son pays. Voilà, alors bien sûr, tout ce que je viens de dire de la Suisse et de la Belgique ne doit pas être pris au premier degré. Regardez la direction dans laquelle va ma réflexion. Hein. Un proverbe oriental dit « quand on montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt ». Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit. Mais regardez la direction. La direction est la suivante. Plus un pays est angélique, c'est-à-dire plus il a, comment dire, cette ambition d'un souci de soi, poussé à l'excès, d'une négligence vis-à-vis des autres, hein, plus les catastrophes sont prêtes à se déchaîner. Alors, maintenant, nous allons envisager quelle est la fonction des fables, des récits, des fictions, la fonction fabulatrice. Alors, je dirais que l'intérêt des constructions symboliques et des récits qui les sous-tendent et qui les portent, et dans la fuite qu'ils permettent, loin des conflits et des tensions, en nous permettant de croire ou en nous donnant l'illusion de penser qu'ils peuvent se résoudre. Le mythomane, par exemple, croit à ses propres récits. On nous dit qu'il fuit dans un monde illusoire. Mais biologiquement, il y a une nécessité vitale de la fuite. Un fou ne développe pas de cancer, c'est ce que dit Laborite, un biologiste, dans un livre très intéressant mais au titre paradoxal, et qui s'appelle « Éloge de la fuite », vous voyez. Donc pour lui, il n'y a qu'un salut, se sauver, mais se sauver non pas se laver d'un péché originel quelconque, mais s'enfuir, vous voyez, se sauver, je me sauve, je m'enfuis. Hein. Alors je vous signale que Laborite a inspiré le film de René, d'Alain René, qui s'appelle « Mon oncle d'Amérique ». Vous voyez, les travaux de Laborite, la biologie. Donc, biologiquement, il y a peut-être un exutoire aux conflits intérieurs dans le fait de les exprimer. Et Bergson a appelé « fonction fabulatrice » cette réponse de la création et de l'expression humaine tout entière à l'angoisse intérieure et au silence du monde. L'univers, disait Bergson, c'est une machine à faire des dieux. Hein. Comme la petite fille d'Andersen dans le conte célèbre allume dans la nuit ses allumettes l'une après l'autre pour se réchauffer ou s'éclairer, ainsi l'homme construit ses fictions éphémères et toujours recommencées. Hélas, viendra un moment où la boîte d'allumettes sera épuisée, il n'y aura plus d'allumettes, et donc ce sera le noir, le froid de la nuit, c'est-à-dire la mort. Mais pendant tout le temps où cette petite fille s'éclaire, elle se réchauffe à ses fictions. Alors, on peut voir là une allégorie des fictions salvatrices. Hein. En général, l'homme parle avant et devant la mort. Alors, le plus célèbre conte de la littérature arabe nous dit qu'une jeune fille a triomphé d'un roi jaloux et inquiet en lui racontant chaque nuit une histoire nouvelle, une histoire guérisseuse. Et là est toute la culture. Hein. Ou bien le roi se contente de posséder le corps de Scheherazade, et après il est triste, ou n'a aucune raison de ne pas continuer d'être triste, puisqu'on dit « omne animal post coitum triste », c'est-à-dire « tout animal est triste après l'amour hein. ». Et alors le roi peut tuer Scheherazade, comme il le fait de toutes les vierges qu'il a possédées auparavant, là, comparé avec la barbe bleue de Charles Perrault, hein. Ou bien, deuxième hypothèse, ensuite, le roi va écouter Scheherazade et il va se sauver par l'imaginaire et l'exploration de scénarios de l'existence qui sont différents du sien. Donc, je dirais que le roi, c'est l'homme bloqué et inhibé, et que ce récit des mille et une nuits a une fonction thérapeutique, cathartique, au moyen de laquelle le roi échappe à la tristesse et à la pulsion du mort qu'il habite, hein, pulsion de mort, hein, Thanatos, hein, il échappe au labyrinthe de fantasmes régressifs qui le noue, qui le ligote, hein, qui l'emprisonne, hein, et l'âme, de la même façon, doit être délabyrinthée. Hein. Donc je dirais que Scheherazade se libère par le récit, et elle libère l'âme du roi par le récit. Elle est l'âme du roi, et elle est l'homme qui parle avant la mort et face à la mort. Paul Valéry disait « L'homme parle devant la mort comme le causeur adossé à sa cheminée ». Vous voyez, on a besoin de ces fictions. Nous devons nous réchauffer à leur contact hein, pour reculer le moment de la mort. Hein. Il viendra toujours assez tôt. Mais grâce aux fictions, justement, nous n'avons pas froid hein, et nous nous libérons de notre angoisse. Donc, les constructions symboliques, je rappelle que l'âme même de mon livre sur la culture générale, c'est la notion de construction symbolique. Hein. Donc, les constructions symboliques, les fictions, les mythes, je dirais qu'ils sont des remède de l'âme. Hein. Et donc, la verbalisation, la mise en scène est elle-même une catharsis. Hein. Elle permet d'éviter ce qu'on appelle la restriction mentale, inhérente au processus général de culture. Elle permet d'éviter les inhibitions et l'autorépression que cette restriction mentale engendre. Cette expression est peut-être difficile à comprendre. Ça veut dire que dans l'homme civilisé ne dit pas tout. Hein. Il y a des choses qu'il garde pour lui. Il y a en lui la politesse, il y a en lui les injonctions sociales. Mais grâce justement aux constructions symboliques, grâce aux récits, eh bien l'homme peut faire parler ce qu'il y a, je dirais, sous le plancher, hein, sous son plancher en lui. C'était la fonction de la poésie selon André Fresneau, hein, faire parler ce qu'il y a sous le plancher. Eh bien, c'est d'une certaine façon se réconcilier avec son inconscient. Et regardez ce que dit Julia Kristeva, une psychanalyste, dans un livre qui s'appelle « Pouvoir de l'horreur ». Elle dit, elle analyse l'œuvre de Sade, et elle dit qu'il a été utile à Sade d'exprimer ses fantasmes. Si noirs qu'aient été les fantasmes de Sade, ils ont été utiles, justement, pour délivrer leur auteur, vous voyez. Alors, l'œuvre de Sade a permis de désamorcer, pour son auteur, les fantasmes qui l'assiégeaient. Alors, bien entendu, après, il y a l'utilisation que l'on fait de l'œuvre de Sade. Mais en général, je ne crois pas que ce soit une bonne chose que de cacher à l'homme sa partie démonique, comme disent les Allemands. De faire en sorte qu'il ne soit pas le fameux Wildermann, l'homme sauvage des Allemands. Hein. En fait, il y a dans l'homme une sauvagerie. L'homme est un être double. Hein. Il n'est ni ange ni bête, disait Pascal. Hein. Il y a en lui de l'angélisme et du bestial, si vous voulez. Hein. Et donc, il ne faut pas privilégier un seul pôle, parce que si vous êtes trop angélique, alors il y aura des catastrophes. Le malheur veut que, dit Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête, hein, vous voyez, hein. Tenez, il me vient à l'esprit ce que dit Molière à propos de Tartuffe, hein, Orgon, un personnage de l'entourage de Tartuffe dit à propos de Tartuffe, il est tellement pieux que, à ce point qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère, vous voyez. Alors là, on voit bien que l'ange devient bête. C'est exprimé de façon très cocasse, hein. Donc, ne soyons pas des anges. L'homme n'est pas des anges. C'est un milieu, justement, entre l'ange et la bête. Et donc, le rôle des fictions et des récits, c'est de faire très souvent parler en lui son côté bestial de façon à ce que la représentation puisse l'en délivrer. Voilà, eh bien je vais m'arrêter pour cette semaine. Nous reprendrons la réflexion la semaine prochaine et je ferai par exemple l'éloge de la colère. Donc, la suite au prochain numéro, en quoi la colère peut-elle être utile pour nous? Voilà, rendez-vous à la prochaine émission.
Trouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.